Vous écoutez, on lit pour vous.
Les innovations technologiques au cœur du quotidien par Aline Van Compernole. Paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Les innovations technologiques ont été imaginées pour faciliter le quotidien et offrir une meilleure qualité de vie aux personnes en situation de handicap. Que ce soit des aides à la mobilité, une assistance pour effectuer certaines tâches ou pour accomplir des actions difficiles ou impossibles en fauteuil, comme le contrôle à distance de certains objets, les innovations technologiques ont souvent transformé et amélioré la vie en autorisant davantage d'autonomie, de spontanéité et aussi de plaisir dans des activités qui étaient auparavant très compliquées, voire impossibles. Vous pourrez, dans ce dossier, lire plusieurs témoignages d'utilisateurs de ces technologies qui racontent leurs expériences et livrent les avantages et les limites qu'ils y voient. Nous présentons également quelques-unes des compagnies qui inventent, créent ou renouvellent ces innovations en se mettant au service des personnes en situation de handicap et en visant à répondre à un besoin. Vous verrez également que l'accès à ces nouvelles technologies, tout aussi nécessaires, n'est pas simple ni universel. La question du coût et de l'accès aux technologies. Vous découvrirez en lisant ce dossier que les coûts d'acquisition de telles innovations atteignent souvent des sommets. C'est une méga surtaxe appliquée au handicap, comme l'appelle Nicolas Messier, membre de Mémo Québec et ancien conseiller en intégration, volet défense des droits. De très nombreuses technologies ne sont pas fabriquées au Québec. Il faut donc les importer. Certaines technologies sont remboursées par un régime de sécurité sociale, exemple la RAMQ, et d'autres non. Les produits faisant partie de la liste des technologies remboursées évoluent sans cesse, si bien qu'il reste difficile de s'y retrouver, rendant ainsi certaines barrières financières infranchissables pour les personnes qui ont de trop faibles revenus ou ne reçoivent pas de financement ou de dons. Cet aspect dont nous traitons dans notre dossier et pour lequel Mémo Québec se bat depuis de nombreuses années est un aspect essentiel qui touche à la raison d'être des innovations technologiques. Elles sont imaginées, créées, conçues pour toucher un public spécifique. Et ce public doit être en mesure de pouvoir en bénéficier. Le gouvernement, de même que les agents payeurs, doivent continuer, inlassablement, à être sensibilisés à cette réalité. Dans un monde où la technologie est omniprésente et le sera encore certainement davantage dans le futur, il est essentiel de démocratiser le plus possible l'accès à ces aides technologiques. Il en va de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur participation sociale et de leur intégration à une société en constante évolution. Un exemple parmi tant d'autres est évoqué par les ergothérapeutes de la clinique d'accès aux aides technologiques. Grâce aux aides, leur permettant d'accéder à un ordinateur, les personnes en situation de handicap ont l'opportunité de s'exprimer, de participer à la vie sociale, à travers les nombreuses plateformes existant en ligne. Oui à la technologie, mais elle ne doit pas remplacer l'accessibilité universelle. Si la technologie est l'une des aventures intéressantes pour contourner et dépasser les obstacles liés au handicap, Elle ne doit pas devenir un moyen de négliger les obligations d'accessibilité universelle qui sont plus que nécessaires. Certaines organisations vont acheter des fauteuils tout-terrain plutôt que de rendre les lieux accessibles. Les raccourcis sont tentants et moins coûteux. Mais il reste que les toilettes, par exemple, ne seront pas accessibles. Les innovations technologiques ne peuvent pas tout remplacer. Les normes en place sont loin d'être adéquates, et même si certains objectifs devraient en théorie être imposés, les retards sont flagrants partout. « Trop peu, trop tard », dénonce Nicolas Messier. En outre, les nouvelles technologies ne sont pas accessibles par tous de la même manière. Il existe de nombreuses disparités en fonction des handicaps et des atteintes à la mobilité. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas utiliser les fauteuils tout-terrain. Les aides technologiques ne peuvent pas répondre aux besoins de tous. Elles ne mettent donc pas le besoin d'accessibilité universelle de l'avant. Cela est essentiel si nous ne voulons pas créer deux classes de personnes handicapées, reprend, pour conclure, l'ancien conseiller en intégration, volet défense des droits. C'était « Les innovations technologiques au cœur du quotidien », un texte d'Aline Van Compernolle, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad.
Pour adapter les nouvelles technologies à vos besoins, faites appel à la clinique d'accès aux aides technologiques, un texte d'Aline Van Compernolle, paru dans le numéro 162, printemps 2024, du magazine Paraquad. Les tiroirs de l'atelier de la clinique d'accès aux aides technologiques regorgent de gadgets en tout genre. Pour l'œil non averti, ils ressemblent à de simples fils ou à de petits objets électroniques ou en plastique, mais chacun d'entre eux a bien un usage précis qui vise à rendre plus autonome une personne en situation de handicap dans l'usage des nouvelles technologies. Nous parlons ici de téléphone, d'ordinateur, de tablette, de systèmes de contrôle de l'environnement ou encore de manettes adaptées pour les jeux vidéo. Le tout est installé au Centre de réadaptation en déficience physique Lucie Bruneau à Montréal, rattaché au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Il en existe d'autres du même genre dans chaque région administrative du Québec. L'accès à un téléphone cellulaire, l'une des premières choses auxquelles les nouveaux blessés médulaires demandent à avoir accès le plus rapidement possible. Personne ne peut désormais se passer de son cellulaire. Il peut simplement suffire d'accéder aux commandes vocales du téléphone. Celles-ci demandent cependant une programmation et de la pratique. Avec certains cellulaires, on peut tout faire par la voix. Pour l'organiser, il faut souvent un entraînement, un aide-mémoire, car il faut apprendre les commandes vocales exactes pour que le téléphone réponde. Les clients gagnent à avoir un encadrement au début, car cela peut vite devenir frustrant, et les clients peuvent se décourager. Il faut qu'ils apprivoisent tout ça, explique Sophie Laplante, ergothérapeute spécialisée à la clinique, son téléphone en main, prêt pour une démonstration. Des technologies en évolution constante. Sophie Laplante travaille depuis 3 ans à la clinique et est passionnée par son travail. Attirée par les nouvelles technologies, elle a demandé à intégrer la clinique et a été mentorée pendant 1 an et demi à ses débuts afin de maîtriser l'utilisation de ces objets sans cesse en évolution. La manipulation semble simple et souvent les personnes qui passent par la clinique essaient d'abord de se débrouiller eux-mêmes pour adapter leur téléphone ou encore leur maison. Sophie Laplante constate que, trop souvent, les clients qui sont rentrés chez eux après leur séjour à l'IRGLM achètent de nombreux gadgets sur Amazon, des choses qu'ils voient sur Internet et qui ont l'air de bien fonctionner, mais en pratique, c'est plus compliqué. On voit certains clients qui, avant de venir nous voir, ont acheté beaucoup d'items qui n'étaient pas adaptés à leurs besoins. Les systèmes de contrôle de l'environnement présents sur le marché grand public peuvent poser de sérieux problèmes pour une personne tétraplégique qui dépend de cette technologie et elle peut parfois même rencontrer des enjeux de sécurité. Si une porte reste fermée ou une lumière allumée et que la commande vocale ne répond pas, il suffit pour une personne qui n'est pas en fauteuil de se lever pour activer la commande manuellement, mais une personne dont la mobilité est limitée se retrouvera coincée si le système est défaillant. Il en est de même pour un contrôle de lit défectueux. Rester coincé dans son lit ou dehors pendant une tempête de neige peut constituer un danger important, ajoute l'ergothérapeute. Des conseils et du matériel spécialisé. Sophie Laplante recommande donc toujours de consulter la clinique afin d'obtenir les conseils fiables de spécialistes et un matériel qui sera le plus adapté possible à la condition spécifique de la personne et à son environnement personnel. Quand un client fait appel à nous, il nous parle de ce qu'il voudrait, de son environnement et de ses capacités. L'ergothérapeute détermine ses besoins en matière d'aide technologique et essaie diverses solutions en expliquant les avantages et les inconvénients. Nous nous déplaçons beaucoup chez les gens. Nous avons une grande flexibilité. Nous prenons le temps de faire des recherches et des essais en collaboration avec divers spécialistes dans le domaine informatique, électronique et autres, détaille Sophie Laplante. Les ergothérapeutes de la clinique reçoivent à la fois des demandes de personnes qui sont nouveaux blessés médulaires ou de personnes qui sont blessées depuis longtemps mais qui souhaitent changer leur système. Certains clients sont référés par leur ergothérapeute, par un professionnel de la santé qui connaît la clinique ou encore s'auto-réfèrent. Il arrive souvent que les clients ne savent pas que telle ou telle adaptation existe et ils peuvent croire qu'ils ne sont pas en mesure d'utiliser un cellulaire ou un ordinateur, reprend Sophie Laplante. Les ergothérapeutes sont fiers de pouvoir aider leurs clients à retrouver le contrôle, même s'ils ont de lourdes limitations physiques. Pouvoir utiliser un ordinateur augmente l'autonomie, la participation sociale et permet d'être davantage actif, ce qui contribue à améliorer la qualité de vie de manière générale. C'était pour adapter les nouvelles technologies à vos besoins, faites appel à la clinique d'accès aux aides technologiques, un texte d'Aline Vancouvernol, paru dans le numéro 162 printemps 2024. Du magazine Paraquad.
« 1936, un paquebot dans le ciel », un texte de Marc Tison, paru le 7 août 2023 dans la presse. Lancé en 1936, le dirigeable Hindenburg, plus grand aéronef de l'histoire, promettait de traverser l'Atlantique en un temps record et dans le plus grand confort. L'ascension du plus léger que l'air a pris fin abruptement avec l'accident qui a coûté la vie à 36 personnes en 1937. C'est une des images d'actualité les plus célèbres du XXe siècle. Le 6 mai 1937, le dirigeable allemand Hindenburg s'embrase au moment de s'accrocher à sa tour d'amarrage au New Jersey. Transformé en torche, il s'écrase avec une lente et tragique majesté, entraînant la mort de 36 personnes. Le Hindenburg était alors l'aéronef le plus impressionnant et le plus perfectionné de la planète. La traversée de l'Atlantique sur le rapide paquebot Queen Mary durait près de 5 jours. Le Hindenburg reliait Francfort à Lakehurst, au New Jersey, en 60 heures. Les passagers témoigneront d'une traversée ouatée, sans mal des transports, à peine troublée par le vrombissement des moteurs accrochés loin derrière. Les morts du 6 mai 1937. 13 des 36 passagers, 22 des 61 membres d'équipage et observateurs, un membre de l'équipe au sol. Un paquebot volant. Parler de paquebot aérien n'est pas exagéré. Le vaisseau s'étirait sur 245 mètres, seulement 24 de moins que les 269 mètres du Titanic. Ces 32 cabines, les salons et la salle à manger étaient répartis sur 2 niveaux, dans la partie inférieure de la structure. Les aménagements incluaient une salle de lecture, un fumoir isolé à pression contrôlée, des toilettes et une douche. Pour plus de légèreté, le mobilier était fabriqué en tubes d'aluminium. Même le piano à queue de bord était fait de ce métal. Les fenêtres, inclinées pour s'intégrer dans le profil de la carène, procuraient une vue vertigineuse sur le sol qu'il survolait à 200 mètres d'altitude. Son constructeur, la Luftschiffbau Zeppelin, avait été fondée en 1908 par un vieil aristocrate allemand dont le nom sera donné à cette classe de ballons à structure rigide, un nom repris plus tard par un groupe qui s'est élevé dans la stratosphère du rock. Un long ballon de football. Les ballons dirigeables, donc capables de se mouvoir dans la direction voulue en dépit du vent, ont fait leur apparition avec l'invention du moteur à explosion à la fin du 19e siècle. Il ressemblait alors à un ballon de football rempli d'hydrogène sous lequel était suspendue une nacelle de pilotage. Le comte Ferdinand von Zeppelin, un militaire de carrière né en 1838, était convaincu que leur succès dépendait de leur taille et il a décidé de s'attaquer lui-même au défi. Soutenu par une petite subvention de l'empereur Guillaume II, plus l'aluminium et quelques fonds fournis par l'industriel Karl Berg, il a fondé une petite société en mai 1898 et s'est entouré d'une poignée de talentueux ingénieurs. Sous sa direction, ils ont conçu une structure métallique légère et profilée, constituée de longerons longitudinaux, reliés par des anneaux périphériques. Recouverte d'une toile qui formait sa carène, cette structure retenait des ballonnets remplis d'hydrogène, un gaz plus léger que l'air qui présentait toutefois le sérieux inconvénient d'être hautement inflammable en présence d'oxygène. Le premier Zeppelin. Von Zeppelin a construit un gigantesque hangar sur les rives du lac de Constance et y a assemblé son premier Zeppelin long de 128 mètres. Le LZ-1 a effectué son premier vol en juillet 1900 sous les yeux de 12 000 témoins ébahis. Trop fragile, il a été endommagé lors de tests menés en octobre, ce qui a mis fin à l'aventure. De nouveau soutenu par Karl Berg, von Zeppelin a lancé en 1905 la construction d'une série d'aérostats plus solides et mieux motorisés. Le LZ-2 a été détruit au sol par une tempête. Le LZ-3 a volé avec succès, mais le LZ-4, dont les essais devaient lui garantir des contrats gouvernementaux, a brûlé en 1908, ruinant son entreprise. L'intérêt du public et la fierté nationale avaient toutefois été titillés. Avec les dons qui affluaient, le vieux comte a regonflé son compte en banque et lancé une nouvelle société en 1908, la Luftschiffbau Zeppelin. Vous écoutez 1936, un paquebot dans le ciel, un texte de Marc Tison, paru le 7 août 2023 dans la presse. Pour rentabiliser ses appareils, il a fondé en 1909 la première compagnie aérienne de passagers de l'histoire, la Deutsche Luftschifffahrt Aktiengesellschaft, DELAG. Entre 1910 et le début de la Première Guerre mondiale, les quatre Zeppelins de DELAG ont transporté quelque 34 000 passagers sur plus de 1 500 vols, dont 10 197 ont payé leur passage. Il n'y a eu aucun blessé. Même si Zeppelin rêvait de transport civil, son principal client devint bientôt le gouvernement allemand. Ses dirigeables d'observation d'abord et de bombardement ensuite sèmeront la terreur dans le ciel anglais durant la Première Guerre mondiale. Le vieux comte est mort en 1917. Le docteur Hugo Eckener a alors pris les commandes de la Luftschiffbau Zeppelin, le LZ-127 Graf Zeppelin. Lancé en 1928, le LZ-127, baptisé Graf Zeppelin, mesurait 237 mètres de longueur, transportait 20 passagers et maintenait une vitesse de croisière de 115 km/h, autant qu'un train express. Durant ces 9 années de service ininterrompu, soit l'équivalent de presque 2 ans en vol, il a franchi 1,7 million de kilomètres et transporté 13 110 passagers sans encombre. Très souvent commandé par Hugo Eckener lui-même, le Graf Zeppelin a effectué 144 traversées transocéaniques, dont 64 vols vers l'Amérique du Sud, a réalisé un tour du monde et a fait une expédition polaire. Le Hindenburg. Le projet du LZ-129, futur Hindenburg, a été lancé à la fin de 1930. Les concepteurs allemands entrevoyaient un dirigeable gigantesque dont la taille lui permettrait d'accueillir une quantité suffisante d'hélium, un gaz ininflammable mais rare qui procure 90 % de la sustentation de l'hydrogène. Cependant, après l'arrivée au pouvoir de Hitler, les États-Unis, seuls producteurs, refusaient de vendre à la Zeppelin la moindre molécule du précieux gaz inerte. Hugo Eckener était rétif devant les exigences de la propagande nazie. Il a perdu pratiquement toute influence dans l'entreprise quand Hermann Göring, ministre de l'aviation, a détaché la DELAG de la Luftschiffbau Zeppelin en 1935 pour fonder la compagnie aérienne Deutsche Zeppelin Reederei, DZR. Les essais en vol du Hindenburg, gonflé à l'hydrogène, ont été abrégés pour lui permettre de faire des vols promotionnels. Le drame de Lakehurst n'y sera peut-être pas étranger. Le Hindenburg en chiffres. Source airships.net. Longueur 245 mètres. Diamètre 41,2 mètres. Volume de gaz 200 000 mètres cubes. Vitesse de croisière 125 km/h. 4 moteurs Daimler-Benz à 16 cylindres, 40 officiers et hommes d'équipage, de 10 à 12 agents de bord et cuisiniers, 72 passagers en 1937, 32 cabines en 1937. La catastrophe. En 1936, le Hindenburg avait transporté 1 002 passagers en 10 voyages aller-retour. Le drame est survenu à la deuxième traversée de la saison 1937. À son arrivée au New Jersey, le temps était humide et orageux, donc propice à l'accumulation d'électricité statique sur la toile imperméabilisée de l'aérostat. Il a pris feu lorsque ses câbles d'amarrage ont touché le sol. Bien que des rumeurs de sabotage aient circulé, l'explication la plus probable demeure une fuite d'hydrogène sur un des ballonnets de gaz situés à l'arrière, qui se serait enflammé ensuite en raison d'une décharge d'électricité statique. Certains estimeront que l'équipage, soucieux de rattraper un retard peu flatteur pour le régime nazi, n'a pas respecté les sévères consignes de sécurité instaurées par Hugo Ekener. La fin du plus léger que l'air. À la suite du désastre, le Graf Zeppelin LZ-126 a été retiré du service. Le LZ-130, frère jumeau du Hindenburg, dont la construction devait être terminée en octobre 1937, ne pouvait être converti à l'hélium en raison de l'embargo américain. Ils ont été démantelés au début de la Seconde Guerre mondiale pour en récupérer le métal. À la fin du conflit, la Luftschiffbau Zeppelin est entrée en dormance. Elle le restera pendant un demi-siècle. Le retour. Mais tout n'était pas dit. La Luftschiffbau Zeppelin, réanimée, a participé en 1993 à la création de la société Zeppelin Luftschifftechnik, vouée au développement de dirigeables de nouvelles technologies. Son Zeppelin NT, un dirigeable semi-rigide de 75 mètres pouvant transporter une douzaine de passagers, est entré en service en août 2001. Au Royaume-Uni, la Hybrid Air Vehicles, HAV, a fait décoller en 2016 son dirigeable Hybrid Airlander 10, un appareil qui sera en mesure d'accueillir jusqu'à 100 passagers, soutient l'entreprise. En 2022, elle a annoncé un accord avec la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum pour la réservation de 10 de ses dirigeables à zéro émission. Le Québec participe lui aussi à la renaissance des dirigeables. Le gouvernement provincial a investi dans la filiale locale de Flying Whales, une société française qui souhaite en concevoir et les destiner au transport de marchandises vers des régions éloignées. C'était 1936, un paquebot dans le ciel. Un texte de Marc Tison, paru le 7 août 2023 dans la presse.